Europe 1,
9h-11h,
Wendy Bouchard.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Europe 1. On est ensemble pendant 2 heures pour faire le tour de la question. Bonjour Julie.
Bonjour Wendy.
Avec pour commencer ce débat issu des européennes, en quelque sorte, faut-il faire exploser les partis politiques ? Ni droite, ni gauche, c'était le choix d'Emmanuel Macron en 2017 et cette vision semble se retrouver dans les actes de certains citoyens, dans les votes en tout cas. Celui de dimanche est éclairant à cet égard. Être de droite ou de gauche d'ailleurs, a-t-il encore un sens pour vous ? Et qu'est-ce qui doit guider finalement, à votre avis, la vie politique à l'avenir ? Eh bien, on fait le tour de cette question avec nos spécialistes, politologues, journalistes, Bernard Salanès, Bruno Jeudy, que je vous présente et que je laisse s'exprimer dans un instant. Vos témoignages à l'avenant, le standard est ouvert, Julie.
Le 49 39-21.
Vous étonnez, j'adore ce réflexe. Le 39-21, ça doit toujours pas changer.
La minute.
Et puis à 10h, alors que l'exposition Toutankhamon attire un très large public depuis 2 mois à la Grande Halle de la Villette, on redessine pour vous les grandes lignes de l'histoire du plus connu des pharaons. Son règne fut très court, mais son trésor a marqué l'histoire. Et pour la seconde fois depuis 1967, il revient en France, amateur d'Égypte ancienne et curieux de tous les pays. Cette émission est faite pour vous. Voilà le sommaire jusqu'à 11h.
9h-11h, on fait le tour de la question avec Wendy Bouchard sur Europe 1.
Avec le scrutin de dimanche qui a intéressé davantage les électeurs, vous le savez, venus voter plus que par le passé, presque un Français sur deux aura fait la démarche. C'est peu, mais c'est mieux. 9 mois de participation en plus par rapport à 2014. Une mobilisation qui veut dire quelque chose et les observateurs politiques ne s'y trompent pas et qui veut dire quelque chose aussi pour le sujet que nous dessinons ce matin sur la vie des partis politiques. Bonjour Bernard Salanès.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, politologue et président de l'Institut de sondage ELAB. Bruno Jeudy, chef du service politique à Paris Match, rédacteur en chef est également en studio. Bonjour Bruno.
Bonjour Wendy.
Comment interprétez-vous, messieurs, ce sursaut citoyen, si ce n'est sur le message envoyé ? Voilà la politique que nous souhaitons, peut-être recomposée avec d'autres pôles demain, et je pense en particulier au troisième parti de France, le pôle écologique.
Bon, d'abord, il y a eu, on va dire, une dramatisation des enjeux, oui. Des enjeux du vote sous l'effet de la politique nationale, mais aussi une prise de conscience dans les derniers jours, dans les dernières semaines, que l'Europe, que l'on soit pour ou contre, c'était quelque chose d'important. Et cette dramatisation des enjeux que l'on a vu sur deux thèmes majeurs, l'immigration pour une partie de l'électorat, les questions environnementales pour une grande partie, oui, de l'électorat, ça a été la surprise de dimanche, a amené au vote, a amené vers le vote des électeurs qui ne s'y rendaient pas traditionnellement pour une élection européenne. Il faut rappeler quand même qu'on finit à un peu plus de 50% de participation. C'est nettement moins, notamment, qu'aux élections présidentielles et moins qu'aux élections municipales. Donc il y a eu une prise de conscience de l'enjeu. Et c'est ça qui est, à mon avis, plus intéressant et sur lequel on n'a pas encore fini d'analyser. Alors que l'Europe apparaît comme lointaine, finalement, une partie des électeurs se sont dit ce vote-là, ça peut changer quelque chose. Voilà. Et ça, pour moi, c'est la vraie surprise. Comment, d'une Europe qui apparaît lointaine, peu démocratique, assez technocratique, pas incarnée, une politique européenne qui n'a d'ailleurs pas de bilan, personne n'est capable de dire qui a fait quoi, à part les experts qui suivent la vie parlementaire européenne, qui a fait quoi, qui a porté telle ou telle idée, mais pourtant on s'est senti proche, encore une fois, que l'on soit pour ou contre de ce qui se décidait à Bruxelles, et ça a permis de faire remonter la mobilisation.
Et comme on a dramatisé, le dites-vous, ces enjeux, et comme on a régulièrement d'ailleurs, c'est le cas pour les européennes, nationaliser ce scrutin, Bruno Jeudy, les Français s'en sont aussi emparés pour dire quelque chose aux partis politiques français. En l'occurrence, très bien, on peut faire barrage à l'extrême droite, on peut voter anti-Macron, mais attention, l'offre classique que vous nous proposez ne nous intéresse plus à côté de ces partis-là en tête.
Oui, c'est la combinaison, comme souvent dans les élections, c'est la combinaison de différents phénomènes que Bernard vient d'exposer. À la fois le fait que ces européennes intervenaient comme le premier scrutin après la présidentielle, c'est un élément, j'allais dire, de calendrier important. Le fait qu'on sortait d'une crise sociale ou qu'on est dans un mouvement social important de 6 mois, ça c'est aussi, à mon avis, une des raisons pour lesquelles, notamment, on le voit bien dans les enquêtes, le Rassemblement National a été porté plus haut qu'en 2017. Il y a aussi, et je pense que c'est important, cette idée au fond que pendant la campagne, l'Europe, il n'y avait plus vraiment d'opposants à l'Europe comme espace politique. Il y avait des opposants à la manière dont elle se construit. Mais au fond, pour beaucoup d'électeurs, les deux seuls éléments qui sont apparus dans la campagne, thème, l'écologie et les questions migratoires, eh bien, le continent européen apparaissait comme la bonne échelle pour s'occuper de ces problèmes. Et c'est vrai que pour une partie des Français, les jeunes notamment, bah forcément, ça joue au niveau européen pour eux, la question de l'écologie, et pas au niveau hexagonal. Ça, c'est un élément de motivation qui n'est pas neutre. Et puis après, il y a effectivement, j'allais dire, l'enjeu très particulier en France, qui fait qu'on est vraiment moins dans le clivage droite-gauche et plus dans le clivage Marine Le Pen dirait les mondialistes contre les progressistes, Emmanuel Macron dit les progressistes contre les nationalistes, peu importe les termes qu'on emploie.
Mais ils
voit
sont
bien,
intéressants et on les
on voit bien
hein,
que c'est
un des,
moi je pense que c'est pas le seul clivage, mais c'est un clivage aujourd'hui qui quand même est important dans la société française et qui est la suite de ce qui s'est passé en 2017.
Oui.
Et sans doute que ça, les partis traditionnels se trouvent aujourd'hui à la remorque sur ce clivage. Et eux, c'est presque, j'allais dire, maintenant, c'est devenu un peu existentiel. C'est comment
de se repositionner en fonction de ce
clivage.
Comment
retrouver pied dans ce débat qui est monopolisé par ce duopole.
Mais il est intéressant ce clivage progressiste, nationaliste, mis en avant aussi par les conseillers d'Emmanuel Macron, qui ont fait une lecture du monde aussi politique national à cet égard. Bernard
c'est
Tavares.
Vrai, mais je pense qu'il faut aussi qu'on regarde ce duopole. Il apparaît très fort parce qu'il est arrivé nettement devant la troisième liste. Mais finalement, quand on regarde, on totalise le score des deux listes arrivées en tête, la liste de Madame Loiseau et la liste de Monsieur Bardella. Cela fait un peu plus de 45,5%.
Oui.
Quand on totalisait le score de Emmanuel Macron et de Marine Le Pen en 2017, cela faisait aussi un peu plus de 45%. Quand on totalisait le score des deux listes qui étaient différentes, qui étaient arrivées en tête en 2014, la liste du Front National et la liste à l'époque de l'UMP, beaucoup de choses ont changé depuis, ça faisait aussi ce même score. Donc il y a bien sûr une concentration de cet espace politique autour de ce duo qui, depuis 2017,
on va y revenir.
Il y a deux grandes familles qui ont changé, qui sont différentes. Mmh. Mais il y a une grande partie de cet électorat, plus d'un électeur sur deux, qui refuse aussi ce duel et ce duopole. Et donc, il faut qu'on fasse attention aussi dans nos commentaires de dire c'est vrai, ce duo existe, ce duopole existe. Il marque l'élection parce qu'il est beaucoup plus fort que la troisième ou la quatrième liste. Mais en même temps, plus d'un électeur sur deux qui est allé voter dimanche a quelque part dit non aussi à ce duel ou à ce duo. Je
Absolument.
Ne sais pas comment il faut le qualifier.
Et les propositions étaient très nombreuses. Hein. 34 listes, on a vu
l'offre électorale.
Pour les plus petites, c'était très anecdotique. Mais en tout cas, il y avait une offre pour les Français. Alors, on s'interroge, ce préambule passé sur les partis. Ont-ils encore un rôle à jouer pour vous? Et comment vous vous définissez d'ailleurs? De droite, de gauche, républicain, socialiste, libéral, nationaliste, est-ce en écho encore aux grandes familles politiques traditionnelles et à quoi servent les partis? C'est une question qu'on va vous poser aussi, Bernard Sananès et Bruno Jeudy. A tout de suite sur Europe 1. N'hésitez pas à venir échanger au standard. On
au 39 21 50 centimes la minute. On fait le tour de la question avec laposte.fr/pro pour envoyer des lettres recommandées en ligne avec la même valeur juridique qu'un recommandé classique.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Résultat de notre sondage Facebook, notre sondage à nous, consultation.
Voilà.
Selon vous, est-ce la fin des partis politiques traditionnels? Oui, à 76%, quand même, pas mal de votes. Ce sont toujours les mêmes avec juste des noms différents, nous dit Clément. Autre commentaire, Catherine, ce qui est fini, ce sont les clivages droite-gauche, et c'est tant mieux. Vous avez cette impression aussi? Les clivages sont terminés?
Oui, le clivage droite-gauche, en fait, faut se méfier des paroles définitives. C'est-à-dire qu'il est mort, mais en tout cas, il a été plus que chahuté deux fois. Une première fois en 2017, avec d'Emmanuel Macron et le second tour face à Marine Le Pen. Mais le clivage droite-gauche, on ne l'a pas retrouvé non plus, et il a disparu aussi dans le mouvement des Gilets jaunes. Et c'est ça qui est intéressant. Qui peut dire si le mouvement des Gilets jaunes était de droite ou de gauche?
On avait simplement des urgences sociales et contestataires.
Et dimanche, je parle du mouvement à son origine, je ne parle pas après de ses développements, je parle de la revendication initiale. C'est une revendication pour le pouvoir d'achat, pour les questions fiscales, où on trouvait des électeurs qui avaient des préférences partisanes différentes. Dimanche, en revanche, ce vote de ceux qui étaient plutôt Gilets jaunes a été capté par Marine Le Pen. Et donc, on voit bien que c'est sur des thèmes nouveaux que se font les clivages. Ça ne veut pas dire que les gens ne se positionnent plus de droite ou de gauche, mais ça veut dire que souvent, ils ne raisonnent plus comme ça pour dire « je prends position sur tel ou tel sujet ». Le clivage droite-gauche qui était structurant, qui était déterminant, c'est parce qu'on savait qu'un individu était de droite, qu'il pensait cela sur des questions économiques, sur des questions sociales. Oui. Aujourd'hui, on ne raisonne plus comme ça. On raisonne sur des situations différentes, sur des clivages nouveaux, que ce soit le clivage du rapport à la mondialisation, par exemple, du rapport à ce qu'on appelle le clivage ouvert-fermé. Est-ce qu'on veut une société protégée, fermée, ou est-ce qu'on veut une société ouverte sur le monde ? On voit qu'il y a des éléments, quand on analyse les enquêtes, qui sont très forts dans la détermination. C'est par exemple le niveau de diplôme, c'est la situation personnelle. Vous savez, il y a une question qui est clé aujourd'hui, c'est est-ce, quand on demande aux gens, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir choisi votre vie ou pas ? Là, on voit apparaître des nouveaux clivages. Et puis, quand on pose la question du rapport à la mondialisation, ce n'est pas une lecture simplement politique. Je vais vous prendre un exemple que j'aime bien. Quand on demande sur cette question de la mondialisation, quand on regarde les résultats en fonction des personnes qui disent parler anglais ou pas, eh bien là, on a une clé de lecture qui est totalement nouvelle. Donc, je ne dis pas que le clivage droite-gauche a disparu. Bien sûr, il y a des individus, des citoyens qui me disent « je suis de droite ou de gauche ». Mais toute la vie politique ne s'organise plus autour de ce clivage.
Et dans les nouveaux clivages, il y a les écolos et les non-écolos aussi, ceux qui mettent l'écologie en priorité.
C'est vrai, mais ce qui est intéressant,
ça, c'est un signal,
ce qui est intéressant dans l'analyse du vote, de dimanche et plus des sondages, c'est qu'on voit bien que Europe Écologie Les Verts, qui était un vote assez clivé, on disait « c'est un vote jeune, urbain, diplômé », on a même caricaturé souvent en disant « c'est un vote un peu bobo ». Mmh. Là, on voit bien, par exemple, en zone rurale, le vote écologiste a pas mal progressé. Sur les différentes générations, à l'exception des retraités qui ont moins voté écologiste, on voit bien que ce n'est plus seulement un vote jeune, mais un vote dans toutes les classes d'âge actives. Donc, c'est un vote qui s'est homogénéisé. Et ça, c'est toujours un signe très important. On avait vécu le même phénomène avec Marine Le Pen entre 2012 et 2017.
Oui.
C'est un phénomène qui montre que l'écologie est sortie de son créneau initial, de son socle initial.
C'est ça, de son terreau plus de gauche initialement. Et Bruno, je dis, avant de vous laisser répondre, juste un petit mot pour revenir un peu sur les échanges. Est-ce que vous constatez, vous, une plus grande volatilité des électeurs au sens où ils peuvent voter républicain à la présidentielle, voter écolo aux européennes, voter pour un maire sans étiquette au municipal, voter encore différemment aux législatives, c'est-à-dire qu'on n'est plus ancré dans une famille. Et on peut bouger en fonction des enjeux, en fonction de son affection.
Oui, c'est sûr qu'il y a une plus grande volatilité qui est liée au comportement du citoyen, qui a un comportement consumériste aussi en fonction des élections et qui aussi
informé,
qui voit aussi en fonction de la proximité de l'élection. Il est évident que, mais ça fait déjà un petit moment, le vote local peut être très différent du vote national. Et le vote européen, c'est là que moi je mets toujours un bémol à toutes les analyses qu'on peut faire depuis dimanche. Le vote européen reste un vote particulier.
Oui,
et il faut toujours rappeler, je rappelle toujours cette phrase, jamais le résultat d'une élection européenne n'a été confirmé dans les élections suivantes.
Oui, mais alors, comment vous expliquez qu'il y a un électrochoc produit dans les partis et que tout le monde, là, est en train de faire son mea culpa et de réfléchir à les républicains les premiers,
Il y a évidemment un électrochoc en 2019. Il avait été fort aussi en 2014. Souvenons-nous quand même que le parti du président de l'époque était tombé à 14% aux européennes. Je peux vous dire que c'était aussi un gros électrochoc, mais le fait est qu'on oublie un peu, puis les choses s'atténuent. Là, cette fois-ci, on a plusieurs électrochocs. On a un électrochoc pour la droite républicaine, c'est une élection apocalyptique puisqu'il tombe en dessous de 10%. Et là maintenant, on en est même à une question existentielle pour la droite. Mm-hmm. Comment peut-elle exister alors qu'elle est prise en étau entre 27% de son électorat qui est parti chez Emmanuel Macron sur cette élection et 15% ou 20% parti vers Marine Le Pen et le candidat Bellamy récupère à peine 40% de l'électorat.
Ils sont obligés de se poser la question.
Et bien là, c'est une remise en cause existentielle, mais ça vaut aussi pour Jean-Luc Mélenchon, qui voit le capital de voix des Insoumis divisé par 3. Et puis évidemment, il y a le phénomène écolo. Alors le phénomène écolo, j'allais dire, c'est leur élection. Bah, ça n'a pas toujours été le cas, mais c'est souvent le cas. Et puis, il y a un petit côté... Il y a deux aspects. Il y a l'aspect écologiste qui est incontestable, et il y a une prise de conscience, Bernard vient de le dire, au-delà maintenant des jeunes, au-delà des urbains. Et c'est peut-être ça qui fait que les Verts feront comme d'habitude, est-ce qu'ils en tiendront compte ou pas? En tous les cas, là, ils ont l'occasion, avec un leader qui n'est pas, qui n'avait pas le charisme d'un Daniel Cohn-Bendit, d'exister, j'allais dire, sur la durée. Mais il y a aussi un petit côté coup de pied aux fesses avec ce vote, puisqu'on voit bien qu'une partie de la gauche qui avait voté pour Emmanuel Macron en 2017, mais qui est déçue par les deux premières années de pouvoir, s'est réfugiée dans le vote écolo pour adresser un carton jaune au président de la République.
Alors, vote existentiel, enfin réflexion en tout cas lié à ce vote de dimanche pour les Républicains. On va y venir tout de suite avec vous, messieurs, et puis j'aimerais qu'on donne la parole à Philippe Laurent, qui est maire UDI de Sceaux. L'UDI a fait un tout petit score. C'est un parti qui souhaite exister encore, mais sur quels critères? Il est également secrétaire général de l'Association des maires de France, des associations que veut mobiliser le président du Sénat pour réfléchir à la reconstruction d'un grand pôle de la droite, du centre. Voilà, donc on lui soumettra aussi cette réflexion. À tout de suite, messieurs, n'hésitez pas à réagir. D'autres témoignages à venir avec Julie au 39-21.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
À quoi servent les partis politiques aujourd'hui? Vaste question, on en parle jusqu'à 10h avec Wendy Bouchard et ses invités.
Bernard Sananès, politologue, président de l'Institut de sondage ELAB. Bruno Jeudy, rédacteur en chef et chef du service politique à Paris Match. Et je suis reprise par Margot sur Twitter. Non, monsieur Emmanuel Macron n'a jamais dit que La République En Marche était ni de droite ni de gauche, mais que La République En Marche était et de droite et de gauche, absolument. Et le fameux en même temps, justement, mais c'est-à-dire que cette proposition initiale de La République En Marche permet peut-être aussi de reconsidérer l'offre électorale aujourd'hui. Et notamment la forme de désenchantement des électeurs vis-à-vis du parti dit des Républicains. François-Xavier Bellamy à 8% avec un aggiornamento forcément en marche. Tout à l'heure, Nicolas Canteloup s'amusait avec la personnalité de Laurent Wauquiez qui ne veut pas comprendre, selon lui, la défaite du parti qui lui serait proprement liée. C'est plus compliqué que ça ou ça tient de toute façon quand même à un homme et à celui qui incarne le parti, la bonne place ou non d'un parti, Bruno Jeudy?
Ah bah, la responsabilité de ce cuisant échec, de cette déroute, elle tient, si vous voulez, entre 80 et 90% à Laurent Wauquiez. Mmh. C'est sa ligne politique, c'est la ligne au fond et sanctionnée, la ligne du parti installée depuis son élection. On voit bien que bon, le candidat, ça va bien au-delà de la personnalité du candidat, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qui a sans doute commis des erreurs. Selon moi, il y en a eu sur la fin de campagne. La fin de campagne a plutôt été ratée.
L'affaire Vincent Lambert,
il a été à mon avis très imprudent et il a moins joué la réunion des familles, parce que c'est une question extrêmement sensible. Il s'est beaucoup avancé, mais ça suffit pas à expliquer les 8,5. Non, c'est une ligne politique. Une partie de cette droite, on voit, s'est déplacée vers Emmanuel Macron, parce que la ligne politique de Laurent Wauquiez, au fond, elle est identitaire, conservatrice, libérale. Pour beaucoup, elle n'était pas assez libéral. Le problème de si vous voulez, c'est que Laurent Wauquiez, sur le côté identitaire, bah Marine Le Pen fera toujours mieux. Sur le côté libéral, il y a Emmanuel Macron qui est en train où les gens se disent, bah finalement, il en fait quand même.
Oui.
Il lui reste au fond un moignon sur le conservatisme pur et dur, avec une ligne un peu brouillonne. Résultat des courses, ça vaut moins de 10.
Ça veut dire que c'est un problème d'identité pour chaque parti qui s'interroge.
Pour la droite et pour LR, c'est clairement un sujet d'offre politique. Quelle est l'offre politique à laquelle aujourd'hui les électeurs de droite ou qui ont déjà voté à droite ou qui sont proches de la droite peuvent, dans laquelle ils peuvent se retrouver?
Vous êtes capable de la résumer, vous, en 10 secondes?
Aujourd'hui, on ne peut pas, parce que Bruno l'a très bien expliqué, sur les deux thèmes majeurs pour l'électorat de droite, c'est-à-dire les questions régaliennes et les questions économiques, il y a ce sentiment que la droite est écartelée. Vous savez, Jean-Luc Mélenchon avait dit dans la campagne de 2017 à propos du PS, il est pris dans le casse-noix entre Macron et Mélenchon. Eh bien, la droite, elle est prise dans le casse-noix entre Macron et Le Pen. Et ça, c'est une grande difficulté. Elle a ensuite un deuxième problème qui est un problème là purement politique et purement tactique. Je suis d'accord avec Bruno, on ne peut pas jamais transposer des élections européennes à une élection présidentielle. Mais ce qui s'est passé dimanche, après ce qui s'était passé pour la première fois en 2017, c'est que le spectre de la qualification possible au second tour pour la droite s'est éloigné. C'est ça qui est le plus dangereux pour la droite. La droite, pourquoi il y a choc? Pourquoi il y a séisme en 2017? Parce que pour la première fois sous la Ve République, la droite est éliminée au second tour. Quand vous faites 8,5% dimanche, le spectre de se dire la droite peut se requalifier s'éloigne. Je ne dis pas que ça n'arrivera pas, mais en tout cas, ça s'éloigne.
Même chose pour le PS. Hein.
Même chose pour le PS. À l'inverse, il faut être tout à fait complet dans l'analyse, la droite a une chance devant elle, on va sans doute en parler avec le maire de Sceaux, c'est qu'arrivent les municipales. Les municipales, c'est un scrutin qui, la dernière fois en 2014, était très favorable à la droite. La droite compte aujourd'hui, dans les villes de plus de 10 000 habitants, une majorité de maires.
Mais qu'est-ce que vous mettez dans la droite, vous, Bernard ?
Quand on prend les maires qui étaient à l'époque UMP, oui. LR, plus les maires centre-droit, oui. Le nombre de municipalités détenues par la droite aujourd'hui est majoritaire. D'accord. Donc la droite part avec des bastions, et on le sait, dans les élections locales, je ne dis pas que les sortants sont toujours réélus, mais en tout cas c'est un gros avantage. Donc la droite peut se dire aussi, voilà, on a touché le fond. Ça peut être un raisonnement de se dire, on a touché le fond, on va remonter au municipal. Mais ça ne règle pas le problème que vous avez évoqué dans votre question, qui est, quelle est l'offre politique différenciante, discriminante de la droite, notamment dans la perspective élection présidentielle. Oui. Comment la droite reconquiert, par exemple, les jeunes ?
Avec
le
des
vote
sujets
des jeunes.
Clivants et bien établis. Être de droite ou de gauche, qu'est-ce que ça veut dire et sur quelle valeur ? Il y a 30 ans, on pouvait dire sur quelle valeur aujourd'hui ? Le respect de l'humain, du vivant, l'immigration. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit sur le sujet ? Je vous donne la parole juste après la pause, Bruno Jeudy, et on accueille Philippe Laurent dans deux minutes avec vous, Julie, et vos témoignages si vous le souhaitez.
Quel paysage politique est en train de se dessiner en France ? On fait le tour de la question avec Wendy Bouchard.
Avec la grande déception pour les Républicains, ce dimanche, c'était un vote européen, un enjeu européen, mais vous avez bien compris que chaque parti aussi fait son introspection à cet effet, car les Républicains ne peuvent pas, et ils le disent en leur sein, se contenter d'un 8% à cette élection. Bruno Jeudy est avec nous, chef du service politique à Paris Match et rédacteur en chef de ce même hebdomadaire. Bernard Sananès, politologue président de l'Institut de sondage ELAB, et j'accueille dans cet échange Philippe Laurent, maire UDI de Sceaux. Bonjour Philippe Laurent.
Bonjour.
Et secrétaire général de l'Association des maires de France. Oui. Est-ce qu'on peut incarner un nouveau monde, pour reprendre une expression d'Emmanuel Macron, avec des gens du passé ? Est-ce que ce n'est pas un peu finalement le message qu'ont envoyé, par exemple, à la droite républicaine, mais aussi à la France insoumise, les électeurs dimanche, Philippe Laurent ?
Bah, écoutez, peut-être, mais en tout cas... Qu'est-ce que vous appelez des gens du passé? Considérant notamment les élus locaux, vous savez, les élus locaux, ils sont de leur temps parce qu'ils sont confrontés tous les jours aux réalités quotidiennes de leurs concitoyens et ils essaient d'y répondre le mieux possible avec les moyens qui sont les leurs. Donc là, je ne pense pas qu'on puisse parler de personnes du passé, s'agissant notamment des élus locaux. Et d'ailleurs, lorsque un maire sent qu'il n'a plus envie, lorsqu'il a perdu un peu de passion... Souvent, il se retire et il passe la suite.
Je ne parle pas des élus locaux, Philippe Laurent, je parle de tous les caciques des partis qu'on a vus ici et là s'exprimer, on entendra certains, avec 30 ans d'expérience derrière, dire il faut faire notre mea culpa, il faut repenser la droite, il faut repenser la gauche, avec le même refrain depuis 40 ans.
Oui, il peut y avoir des réflexions tout de même exactes et pleines de sagesse qui sont émises par ces personnes, des personnes dont vous parlez tout de même. Il faut quand même les écouter. Mais naturellement, ils doivent veiller à s'entourer de nouvelles personnes qui ne sont pas forcément des gens... c'est pas forcément une question de personnes plus âgées et de jeunes. Hein. Ça peut être aussi de nouveaux venus ou des gens qui étaient... autour de qui s'intéressaient aux questions politiques et citoyennes et puis qui, à un moment donné, de leur vie, décident de s'investir. Ça a été le cas aussi lors des élections législatives de 2017.
Oui.
Donc, tout ça, il faut qu'on essaie de dessiner un mouvement qui soit un mouvement le plus harmonieux possible et qui ne soit pas un mouvement qui conduise à de nouveaux clivages.
Alors, je vous pose la question aussi, parce que vous êtes membre de l'UDI. L'UDI, Bernard Sananès, a fait 2%,
à peu près 2,4%.
C'est pas satisfaisant, évidemment, pour vous. Est-ce que dans ce paysage politique, vous avez encore, par exemple, je pose la question de manière cash, une existence et un intérêt ou alors, est-ce que votre avenir et l'avenir de vos idées passent forcément par la création d'un grand pôle à droite, de la droite et du centre?
Oui, mais vous savez, les centristes ont l'habitude, depuis, moi, je suis membre des partis centristes depuis toujours, et nous avons une très grande habitude de voir... les valeurs que nous portons et les idées que nous émettons reprises par d'autres. Et malheureusement, c'est toujours le problème des centristes, c'est que mis à part en 1974 avec Giscard d'Estaing, eh bien, nous n'avons jamais réussi, en fait, à transformer en offre politique puissante, je crois, un corpus idéologique qui, lui, est relativement, enfin, est puissant et va chercher des racines très loin.
Donc le parti a-t-il un sens si les idées demeurent?
Oui, c'est la malédiction des centristes. Bon, écoutez, l'UDI est allée jusqu'au bout de sa logique. Elle souhaitait porter elle-même donc un certain nombre de messages qui n'étaient pas forcément portés tout à fait par les autres, hein, même s'il pouvait y avoir des points communs. Nous ne regrettons pas d'avoir fait cette campagne. On a d'ailleurs renforcé nos liens à l'occasion de cette campagne. Nous verrons ensuite aux élections locales comment les choses se passent. Nous sommes évidemment prêts à discuter et à échanger avec beaucoup de monde. Nous avons aussi noté avec un grand intérêt, parce que c'est aussi ce sont aussi des questions dans lesquelles bon nombre de mes amis se sont engagés. Donc le score, le résultat de la liste de Yannick Jadot, c'est aussi intéressant. Ce scrutin, il a beaucoup d'enseignements, en tout cas.
Gérard Larcher, président du Sénat, s'est exprimé sur le sujet il y a quelques jours sur France Info. Il dit qu'ils n'ont pas réussi à convaincre du côté des Républicains et qu'il faut peut-être reconstruire un projet qui rassemble la droite et le centre. Et il va vous recevoir aussi, il va recevoir les grandes associations d'élus, départements, présidents de région, maires, pour faire un point sur la situation dans quelques jours et peut-être pour reconstruire un projet qui rassemble justement la droite et le centre. C'est-à-dire que pour lui, il faudrait davantage réfléchir en termes de pôle, en termes de coalition un peu à l'allemande, qu'en termes de partis classiques qui ne font plus le plein aujourd'hui, Philippe Laurent.
Oui, je crois que c'est une bonne idée, en tout cas une bonne idée d'y réfléchir. Je pense que la façon dont ça a été amené a été un peu biaisée, parce que les associations d'élus, la MF, la DF, la RF, comportent en leur sein des personnalités qui sont issues de différents courants de pensée et qui ont en commun en effet la conviction que les territoires, que l'avenir du pays passe aussi par les territoires, pas seulement, mais passe aussi par les territoires.
C'est la réflexion issue des Gilets jaunes, hein, qu'il aurait fallu
Tout à fait. Donc ça, il y a une conviction profonde que nous partageons. Et d'ailleurs, vous savez, quand je me retrouve, quand je siège donc au bureau de l'Association des maires de France, nous avons le plus souvent des accords sur les choses qui sont fondamentales. Il n'y a pas vraiment, si vous voulez, d'opposition, en tout cas de tension entre nous, quel que soit notre courant
Philippe
d'origine.
Si demain,
on ne peut pas confondre ça avec les partis politiques. Les associations d'élus, c'est une chose, les partis politiques, c'est autre chose. Donc, dans l'immédiat, l'initiative de Gérard Larcher, elle doit se décliner sur deux pôles. D'un côté, des associations d'élus avec les élus locaux d'où qu'ils viennent. De l'autre côté, les partis politiques, les Républicains, Agir, l'UDI, enfin tout ce qu'on veut. Mais en tout cas, on ne peut pas donc confondre les deux et réunir ensemble les deux.
Mais si on vous dit, Philippe Laurent, demain on dissout l'UDI, on dissout les Républicains et on fait un grand pôle justement commun en mettant un certain nombre de valeurs de côté, vous dites oui ?
Ben pour l'instant, je ne dis rien, parce que d'abord, ça n'a pas été proposé de cette façon-là. Et que l'UDI et ses dirigeants sont toujours prêts à discuter avec tout le monde, mais on ne va pas se prononcer comme ça. D'autant plus que nous nous sentons aussi, comme je vous le disais, proches d'autres forces politiques. C'est pas uniquement LR. Il y a toujours eu, depuis longtemps, il y a eu cette alliance, qui souvent a été plus ou moins imposée entre le RPR et l'UDF. Enfin, vous vous souvenez de la grande époque. Je crois que cette période-là, elle est vraiment révolue. Je crois qu'elle est vraiment révolue. Et donc, par conséquent, nous allons aussi, et dans notre corpus idéologique, nous avons des choses qui nous rapprochent, par exemple, des écologistes.
Merci Philippe Laurent, maire UDI de Sceaux dans les Hauts-de-Seine, secrétaire général de l'Association des maires de France, auquel je voulais donner la parole pour éclairer un petit peu sur l'idée du pôle, d'un grand pôle de reconstruction. Bernard Sananès, votre opinion sur cette proposition, notamment du président du Sénat.
Alors, c'est vrai qu'on voit beaucoup d'initiatives, et puis il y a beaucoup évidemment de choses tactiques. Là, on est dans la tactique de est-ce qu'il y a des conséquences à la tête de LR. Mais c'est vrai que derrière ça, et on voit bien sur l'électorat de droite, ce qui est intéressant quand même à noter, je vous donne deux chiffres. Un quart des électeurs qui avaient choisi François Fillon en 2017 et qui ont été votés dimanche, un quart ont choisi d'aller voter pour la liste de Nathalie Loiseau. D'ailleurs, quand on dit le socle d'Emmanuel Macron a tenu, il a fait 24 à la présidentielle, il fait 22 dimanche, c'est vrai, mais ce socle, ce n'est plus tout à fait le même. Il s'est droitisé, parce que, Bruno l'évoquait tout à l'heure, il y a des électeurs de droite qui sont venus soutenir la liste Renaissance en marche, et il y a dans le même temps des électeurs qui voulaient signer un avertissement à Emmanuel Macron et qui ont été votés à peu près pour 20%, soit pour la liste Parti Socialiste, soit pour la liste Europe Écologie des Verts.
Julie. Et puis La République En Marche a bénéficié des voix du MoDem aussi.
Oui, c'est vrai, mais qui n'était pas. C'est pour ça qu'on ne le prend pas en comparaison, ouais, parce qu'elle n'était pas présente à l'élection présidentielle. Ouais. Elle soutenait déjà. C'est pour ça que la comparaison, pour le coup, ne modifie pas la base. Voilà. Et l'autre chiffre, c'est qu'on a aujourd'hui, dans les enquêtes depuis 6 mois, le chiffre varie entre 40% des électeurs de droite et 50% qui déclarent faire confiance à Emmanuel Macron. Donc on voit bien qu'il y a aussi cette aspiration, et M. Laurent, élu du centre-droit, parlait de cela. L'électorat du centre, il est encore plus tiraillé, les formations du centre, entre des alliances historiques avec ex-UMP LR et une tentation de s'allier avec ou d'accueillir des candidats de En Marche pour les prochaines municipales. Qu'est-ce qui va se passer pour ces maires qui se déclareront ou pas Macron compatibles ? C'est un enjeu de recomposition très concret.
Complètement. Et il y a des enjeux très intéressants pour les municipales, avec beaucoup de maires sans étiquette aussi, qui ne veulent pas s'enfermer dans ce type de carcan. Est-ce qu'on pourrait aller vers une culture plus de la coalition, de grands pôles, justement, Bruno Jeudy ? Question subsidiaire que je poserai après avoir posé celle sur l'intérêt des partis politiques aujourd'hui encore en France en 2019. Juste après la pause, on vous répond, Julie.
On fait le tour de la question avec la Poste. .fr/pro, la solution des pros pour imprimer des timbres depuis son bureau.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.
Au lendemain des élections européennes, de la forte participation au vote et du score décevant de certains partis, doit-on s'attendre à une recomposition de l'échiquier politique ? Wendy Bouchard.
On parlait des propos de Gérard Larcher, président du Sénat, qui veut reconstruire la droite et le centre en ratissant plus large. La proposition, dès lundi matin, de Yannick Jadot, de créer aussi un grand pôle écologique, socio-écologique, enfin social-écologique, on ne sait pas exactement à quoi il pourrait correspondre, mais on a bien compris cette envie d'être un peu au-dessus des partis, justement, et d'attirer plus de monde dans le giron. Un peu à l'allemande, si j'ose dire, Bruno Jeudy. Est-ce que cette culture pourrait arriver en France ?
Alors, c'est vrai que... On va prendre les deux bouts de l'échiquier. C'est peut-être plus facile, j'allais dire, pour Yannick Jadot, les sociaux-démocrates ou socialistes, ce qui reste du Parti Socialiste, d'envisager peut-être une coalition, je ne sais pas si c'est à l'allemande, mais enfin, en tous les cas, pour l'entité écologique, ça parle, puisque les Grünen en Allemagne font ça. L'Allemagne a une tradition de coalition. Nous n'avons pas une tradition de coalition, parce que dans la Ve République, c'est le fait majoritaire qui procède de nos institutions. Le fait majoritaire, c'est pour la présidentielle, il faut réunir 50% pour être élu. Pour les législatives, c'est aussi le scrutin majoritaire qui est encore notre scrutin, même si le président de la République veut y introduire via la réforme constitutionnelle une dose de proportionnelle. Mais pour l'instant, c'est le fait majoritaire pour les deux grandes élections. Du coup, la coalition n'est pas dans notre tradition. Mais on voit bien que pour les partis, et notamment les partis de gouvernement, peut-être qu'il va falloir envisager des alliances.
Oui, pardon, il y avait peut-être un peu de ça quand même dans le mouvement En Marche d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire un peu au-dessus des partis, justement, dans son mouvement de rassemblement, il y avait un petit côté...
Vous avez raison, mais c'est un peu en apparence, parce que quand vous regardez Emmanuel Macron, il gagne la présidentielle, derrière, il gagne les législatives, il ne propose pas de faire une coalition, il propose de rentrer dans sa majorité. Il ne dit pas à la droite, avant les législatives, on va passer un contrat de gouvernement et éventuellement gouverner avec la droite, peut-être l'aurait-elle faite, je ne sais pas, ou gouverner avec les socialistes. Il ne propose pas ça, il propose qu'il rejoignent sa majorité. C'est ce qu'ont fait Édouard Philippe, Sébastien Lecornu à droite.
Ouais, c'était une première étape peut-être vers un nouveau monde.
Peut-être qu'on ira vers ça. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. C'est vrai que Yannick Jadot, lui, il envisage dans sa tête de faire une sorte de coalition peut-être ou d'un grand mouvement avec les socialistes. Et c'est vrai que Raphaël Glucksmann n'était pas très loin des positions de Yannick Jadot. À droite, c'est un petit peu différent parce qu'à droite, il y avait un parti qui dominait et il y avait cette idée de domination à droite, c'était le parti, on va dire, gaulliste, et puis tous les ersatz du parti gaulliste. Aujourd'hui, ils sont dans une situation extrêmement compliquée. Et puis, une partie des centristes sont partis chez Emmanuel Macron. Je pense à François Bayrou et son MoDem. Et ce qui reste des partis centristes, c'est vraiment des toutes petites chapelles, sans vouloir faire offense. L'UDI, le score de l'UDI est extrêmement bas sur cette élection. Je crois que pour revenir et compléter d'un mot sur ce qu'a dit Bernard, l'opération Gérard Larcher, c'est une opération quand même, sauf qui peut, dans la perspective des municipales. Ouais. Laurent Wauquiez, dimanche soir, dit il nous faut 3 ans pour renaître. Je donne 3 ans pour renaître. Eux, ils disent, Gérard Larcher lui répond, il y a des municipales d'ici un an, donc c'est tout de suite. Et on envisage de créer une grande force de droite et du centre, et peut-être au-delà, pour essayer justement de fédérer tous ces maires dont parlait Bernard Sanès, et qui sont très nombreux. La droite avait fait une vague bleue aux dernières municipales, donc là, il y a un enjeu, à mon avis, capital de survie pour la droite.
Je pense qu'il y a cet enjeu, et puis, si on peut, non pas faire de pronostic, mais on peut essayer une hypothèse, c'est de se dire que, à part le Rassemblement National, finalement, beaucoup de partis LR, les partis du centre, les partis socialistes, écologistes, En Marche y compris, vont avoir intérêt à dépolitiser les municipales. Et ça revient avec la question de l'émission. Finalement, aux municipales. Alors déjà, les municipales ne sont pas un scrutin très politisé, mais on voit bien qu'il y a toujours des tendances nationales. Mais est-ce qu'on va courir comme ça après une investiture? Vous êtes un maire qui a été élu en 2014 avec l'étiquette Parti Socialiste. Vous êtes très bien implanté dans votre ville. Qu'est-ce que ça va vous apporter de plus d'avoir l'investiture du Parti Socialiste?
Ça peut vous apporter en moins, surtout.
En tout cas, ce n'est pas forcément un upside, comme on dit dans les marchés financiers.
Vous êtes un maire d'Anne Hidalgo, mon parti, c'est Paris. C'est moi,
Parti Socialiste. À Nantes, ou Nathalie Appéré à Rennes, qu'est-ce que ça vous apporte de plus? Vous êtes un maire de droite, bien installé. On a parlé de Jean-Luc Moudenc à Toulouse, Arnaud Robinet à Reims. Ces maires dont on disait qu'ils étaient Macron compatibles. Finalement, ils ont appelé à voter Bellamy. Ils voient que dans leur ville, LR arrive en 4e position. Est-ce qu'ils vont se dire, je fais majorité municipale pour Toulouse, pour Reims, autour de moi, plutôt que de se dire, l'investiture va m'apporter quelque chose? Et par ailleurs, il y a une chose qu'on oublie aussi, c'est que, avec la fin du cumul des mandats, le fait qu'on était maire et député, et donc on était un peu prisonnier aussi de ces votes nationaux quand on votait pour ou contre le budget. Là, aujourd'hui, on est plus libre des choix de son parti quand on est élu local parce qu'on n'a que cette fonction. Et donc, ça rend beaucoup plus de liberté par rapport aux appareils partisans. Et donc, sans doute une autre recomposition au municipal.
Qui sera très intéressante à suivre donc, l'année prochaine, en 2020. C'est pour ça que, Bruno, je dis, j'arrive pas trop à vous suivre quand vous dites, en tout cas, c'est la lecture de Gérard Larcher, c'est pas la vôtre, il faut absolument capitaliser pour les municipales, etc. Qu'est-ce que ça leur apporte au parti d'avoir des mairies de droite, des mairies de gauche aujourd'hui?
Alors, d'abord, il y a peut-être faut voir d'où parle Gérard Larcher. Oui. Gérard Larcher, c'est le président du Sénat. Le Sénat, c'est la chambre des territoires. Oui. Ça veut dire que pour le prochain renouvellement sénatorial, ce sont les grands électeurs, ce sont les élus et principalement les élus communaux. Oui. Donc Gérard Larcher, il pense à la réélection des sénateurs et singulièrement à la réélection des sénateurs de droite qui sont majoritaires dans cette chambre.
D'accord.
Donc il y a aussi ça derrière. C'est un calcul qu'il faut avoir en tête. Et après tout, les élections sont les élections. Mais il y a aussi, je pense quand même, je le répète, c'est aussi existentiel à droite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui reste à droite? Il reste 100 de députés, mais qui pèseront peu de choses si la droite est encore éliminée du premier tour, du deuxième tour de la prochaine présidentielle. Et puis il reste des dizaines et des dizaines de mairies. C'est le parti aujourd'hui qui a le plus d'élus municipaux et de mairies. Donc s'il perd de ça... Bon, là, autant dire, ils perdent ça. Ou que leurs élus changent d'étiquette, parce qu'on pourrait aussi l'imaginer. Eh bien là, pour le coup, ça signera la fin de cette famille politique. Donc c'est vraiment un enjeu existentiel. J'ajoute quand même, juste pour mettre un bémol sur ce que vient de dire Bernard, j'avais été assez surpris lors des dernières municipales qui avaient été quand même assez politisées. Mmh. Alors c'était le premier scrutin après la présidentielle de 2012. C'est un scrutin extrêmement politisé. Et on a vu des maires se faire, par exemple, Édouard Philippe, qui est candidat à l'époque à la mairie du Havre pour son deuxième mandat, il se fait réélire dès le premier tour. Alors, sans doute était-il un bon maire, mais il y avait une dimension politique très forte, j'avais trouvé, sur cette élection, et même les municipales ont tendance un peu à se politiser, donc il faut faire attention, parce qu'il peut y avoir aussi un phénomène de... On peut remettre une claque à certains mouvements politiques, et on ne sait pas si on ne peut pas revoir ce qui s'est passé dimanche, c'est-à-dire en gros une sanction, par exemple, du parti de Laurent Wauquiez ou du parti de Jean-Luc Mélenchon à l'occasion de ces municipales.
Moi, je suis d'accord avec Bruno, je ne parlais pas tant des électeurs là, et des mouvements électoraux que de la stratégie des partis politiques et des maires sortants de se dire finalement je ne me marque pas trop politiquement. C'était juste sur ce point.
Alors, juste après la pause, quelle petite réaction sur les réseaux sociaux à vous livrer, messieurs. À tout de suite, encore quelques instants. Vous pouvez nous dire encore au standard, si vous le souhaitez, pour qui vous votez, quand vous allez voter. Est-ce pour un parti, pour une personnalité, pour une idée bien précise, pour une conviction, un courant d'idées? N'hésitez pas, on vous attend avec Julie.
39-21.
Nous parlons des partis politiques jusqu'à 10h sur Europe 1 avec Wendy Bouchard et ses invités. J'ai un commentaire à lire sur Facebook de Jean qui insiste sur l'importance, l'impact du nom d'un parti. Il nous dit: à la présidentielle de 1969, le candidat SFIO a fait 5%. 5 ans plus tard, en 1974, le candidat PS, qui était le nouveau nom de la SFIO, a fait 43%. Et à ce propos, je voudrais savoir si Marine Le Pen a eu raison de changer le nom de son parti.
Bernard Sananès, bonne question tout ça.
Oui, c'est une très bonne question. On ne peut pas dire qu'il y ait eu un très gros impact, puisque finalement, Marine Le Pen, en pourcentage, ne fait pas plus de voix qu'aux élections européennes de 2014, où elle avait fait près de 25%.
Mais en siège, oui, elle était Front National. C'était
tout,
le Front
tout à fait.
National.
Mais surtout, un changement de parti, vous savez, c'est comme quand une marque change de nom. On connaît des marques qui changent de nom. Il faut qu'il y ait des actes derrière. Et on voit bien que, à part quelques ralliements, notamment suite Thierry Mariani à droite, il n'y a pas eu vraiment un mouvement qui est venu s'associer pour nourrir cette idée du Rassemblement National. Donc, je ne crois pas que ce soit la question du mot là qui ait pénalisé Marine Le Pen, c'est le fait que cette volonté de dire on veut être un parti qui sort du socle historique et qui va s'élargir ne s'est pas vraiment concrétisée par 2 ou 3 mouvements. On voit bien, par exemple, avec M. Dupont-Aignan, ça n'a pas prolongé l'entre-deux de la présidentielle.
Moi, je trouve qu'en tous les cas, c'est plutôt une opération réussie pour elle, parce qu'au début de la campagne, elle craignait que la disparition du Front National, qui faisait partie du patrimoine de ce mouvement, pénalise son parti. Ça n'a pas été le cas. Et deuxièmement, c'était également la première fois que ce n'était pas un Le Pen qui conduisait la liste. Jean-Marie Le Pen a longtemps été
le leader
de cette famille,
puis
Marine Le Pen. Et cette fois-ci, elle prenait le risque de lancer un jeune homme inconnu, Jordan Bardella. Là aussi, ça a plutôt été une réussite. Je trouve que l'opération changement de nom, changement de nom aussi
de liste,
du candidat,
ouais,
de tête de liste, est plutôt une réussite pour Marine Le Pen, pareil gagnée.
Peut-être moins réussie pour les Républicains, avec la facilité de se tromper entre Républicains et République En Marche aussi. C'est pas très clair dans l'esprit de certains électeurs.
Sans compter que le bulletin de vote, beaucoup aussi à droite ont râlé, alors parmi les nombreux, nombreux gris. À l'encontre de la direction du parti, il y avait aussi ce bulletin qui, beaucoup ont dit, n'était pas très clair, pas très bien. C'était pas le meilleur des bulletins. Je ne suis pas sûr que ça aussi, ce soit la raison pour laquelle il soit tombé si bas. Mais
c'est qu'ils ont perdu aussi leur socle historique et pour
bien sûr.
Multiples
raisons. Puis voilà, encore une fois, accabler la tête de liste, à mon avis, c'est pas suffisant. C'est bien au-delà. C'est la stratégie et la ligne politique du parti qui est en cause.
Une question de Thomas qui nous écrit de Rouen sur Facebook. Est-ce qu'on n'est pas aussi trop enfermé, Bernard Sananès, dans un clivage, droite-gauche en France, qui fait que l'on ne sait pas penser transparti en fonction des thématiques qu'on soutient ou pas? Cette culture nous a peut-être un peu
réduit. C'est vrai dans le débat politique, mais les citoyens font changer cela. On le voit bien sur différents thèmes aujourd'hui. Il y a beaucoup de sujets. Il reste des marqueurs. Par exemple, vous prenez la question des 35 heures. Ça reste encore un marqueur entre la droite et la gauche. Les questions de redistribution, la solidarité pour la gauche, certains à droite parlent d'assistanat, c'est une vraie différence entre ceux qui se disent de droite et de gauche. Et puis, il y a plein de sujets, par exemple, la valeur travail, la valeur travail n'est pas un sujet de droite. La valeur travail, c'est une valeur qui est largement répandue dans la société française.
Mais qu'est-ce qui fait donc la différence, en effet, sur les grandes thématiques entre droite et gauche aujourd'hui?
Bien, par exemple, sur les questions aujourd'hui migratoires, on voit bien que là, il y a polarisation, c'est extrêmement net. Sur les questions, je l'ai dit, de solidarité, les questions de redistribution, il y a aussi des différences. Mais il y a beaucoup de sujets. Je vais vous prendre un exemple parce que je trouve qu'il est très concret, il est très vie quotidienne. L'ouverture du magasin le dimanche.
Oui.
L'ouverture du magasin le dimanche, c'était pendant très longtemps un débat très structurant entre la droite et la gauche.
Oui.
Mais finalement, les raisons l'ont emporté. Mmh. Les raisons pratiques. Et donc, on ne rentre plus, même si on est de droite ou de gauche, ça n'a pas disparu, mais on ne rentre plus dans un sujet comme celui-là en se disant « je suis de droite ou je suis de gauche ». Est-ce que ça me simplifie la vie ou est-ce que ça ne me simplifie pas ? Est-ce que j'y vois des avantages ou pas ? Et puis, il y a bien sûr les questions de sa situation personnelle. Et ça, c'est aujourd'hui, Bruno parlait de consumérisme politique. En tout cas, c'est vrai qu'avant de raisonner sur des grands enjeux, il y a la pression du quotidien. Et aujourd'hui, la vraie coupure, quand on regarde les enquêtes, elle ne passe pas entre la droite et la gauche, elle passe entre les Français qui bouclent sereinement leur fin de mois et ceux qui ne parviennent pas à le faire.
Et ça, c'est un peu le mouvement des gilets jaunes.
Aussi, hein, ouais. Mais il faut aussi que voilà, les partis politiques et ceux qui les composent réfléchissent en ces termes, autour des thématiques, voilà, ce qui peut rassembler ou pas les Français et comment tendre la main à des gens de la même famille politique de surcroît. Bernard Sananès pour l'Institut de Sondage et Lab dont vous êtes président, merci d'avoir été avec nous ce matin. Bruno Jeudy, rédacteur en chef et chef du service politique à Paris Match, à très bientôt messieurs. On va se retrouver dans un instant dans les trésors de Toutankhamon. Alors on va faire le pas entre l'Égypte et la Villette à Paris parce que les œuvres y sont exposées depuis 2 mois. Dernière exposition du genre avant le retour de ces trésors en Égypte et vous allez vous régaler. À tout de suite avec vous Julie.
9h-11h, Wendy Bouchard sur Europe 1.